On est dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 2, et je vais vous lire quelques versets au chapitre 2 de l'Église de Thyatire où nous sommes rendus dans notre série. J'allume mon écran pour pouvoir aussi vous partager ce PowerPoint, et je vous lis à partir de la version top ce matin, qui va comme suit à partir du verset 18. À l'ange de l'Église qui est à Thyatire. On se rappelle, j'ai mentionné l'ange ici, ou le messager, c'est le même mot, c'est embêtant si c'est un des leaders de l'Église, celui qui amène le message, un des anciens principalement, ou si c'est vraiment qu'il y a un ange pour chaque Église. Le texte n'est pas clair absolument là-dessus, on penche plus vers des messagers, des porte-paroles de l'Église, des anciens, mais tout de même, il est écrit ici pour l'ensemble de l'Église de Thyatire. Ainsi parle le Fils de Dieu. Donc, c'est Jésus-Christ qui adresse son Église, celui dont les yeux sont comme une flamme ardente et les pieds semblables à du bronze précieux. Je sais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et même ta persévérance. Tes dernières œuvres qui dépassent en nombre les premières. Donc, on fait face à une Église qui grandit, qui progresse, qui a un beau témoignage. Mais j'ai contre toi, malgré toutes ces belles qualités-là, que tu tolères Jézabel. Tu as toute notre attention, Seigneur, c'est qui cette Jézabel-là? Puis c'est quoi cette affaire-là de tolérer Jézabel? Il n'y a personne qui appelle ses enfants Jézabel de ce temps-ci parce que, évidemment, si tu appelles ton enfant Jézabel, on va peut-être rattacher ce nom-là à une Madame Jézabel qui a vécu il y a déjà un 2800 ans. Puis la Madame Jézabel, c'était pas une belle madame, puis une bonne madame, puis une fine madame. Disons que appeler ton enfant Jézabel, là, c'est pas de bon augure. C'est pas comme appeler ton enfant Benjamin, Annabelle, hein? Jézabel. C'est pas pour rien qu'on ne l'entend pas autour de nous. C'est une madame qui a laissé une trace dans l'histoire vraiment terrible. Et on se dit, mais c'est quoi cette Jézabel-là? Cette femme qui se dit prophétesse et qui égare mes serviteurs, leur enseignant de se prostituer ou de se livrer, dans le fond, à la débauche et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai laissé du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de ses prostitutions. Voici, je la jette sur un lit d'amère détresse ou d'une grande détresse, ainsi que ses compagnons d'adultère, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. Ses enfants, je les frapperai de mort, et toutes les églises sauront que je suis celui qui scrute les reins et les cœurs. Et à chacun de vous, je rendrai selon ses œuvres. On va compléter la lecture tantôt. Courbons-nous d'un instant. Père Céleste, cette lettre à Thyatire commence avec des beaux propos, mais Seigneur, on vient de lire des paroles difficiles. Il semblait y avoir des problèmes significatifs dans cette Église. Et Seigneur, on te prie de nous instruire ce matin et de nous enseigner comme bon te semble. Seigneur, moi, j'ai des choses que j'ai planifiées de dire, de partager, mais Seigneur, dirige mes pensées, dirige, Seigneur, mes paroles, conduis nos cœurs à être à ton écoute en lisant les Écritures, en entendant, Seigneur, la prédication de ta parole, et que, Seigneur, que ce soit toi qui nous rencontres ce matin encore une fois. C'est ta parole, c'est toi qu'on veut entendre. C'est ta parole, Seigneur, c'est toi qu'on veut, qui percute là où tu veux, Seigneur, sur notre cœur, pour le faire grandir, pour le libérer, ce cœur, pour lui enlever les fardeaux qui l'empêcheraient de grandir. Seigneur, parle à nos cœurs ce matin, peu importe notre besoin, on compte sur toi, parce que c'est la parole de Dieu que nous lisons ce matin, et nous croyons qu'elle est puissante, qu'elle est efficace pour changer nos cœurs. Et nous te prions dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Thyatire. On vient de lire le nom d'une ville, mais le nom d'une ville qu'on voit presque nulle part d'autre ailleurs dans le Nouveau Testament, si ce n'est qu'à un seul endroit. Et vous avez ici les ruines de cette ville antique. Alors, je passe les sept églises et ce matin, c'est ce qu'on va regarder. On va introduire l'église, on va regarder les recommandations qui sont faites à l'église, ensuite des réprimandes qu'on vient de lire et après ça, on va lire l'exhortation et les promesses qui ont été données à cette église pour l'encourager à prendre la bonne décision et prendre la bonne direction. Lorsqu'on regarde cette église, on se rend compte que dans le Nouveau Testament, on en parle une seule fois, mais on parle même pas de l'église, on parle de la ville, d'une certaine Lydie. Une dame, cette ville dans le Nouveau Testament est associée avec une femme qui était une marchande de pourpre et qui se promenait d'une ville à l'autre à vendre ses produits. Elle venait de cette ville-là où il semble qu'il y avait probablement une synagogue parce qu'elle était une prosélyte, donc elle avait une sensibilité aux enseignements de l'Ancien Testament. Elle avait été sensibilisée à la foi juive et là, elle vient en contact avec Paul et finalement, ils vont lui partager l'Évangile. On lit cette histoire dans le chapitre 16. C'était à Philippe, dans le chapitre 16. Donc, elle est quand même un peu loin de chez elle. Elle a voyagé de grande ville en grande ville pour vendre ses choses, peut-être aller chercher des produits. Et elle va être marquée par l'Évangile, cette rencontre avec Paul. Et elle va revenir chez eux. On ose imaginer que ça a été l'ambassadrice de l'Évangile dans sa ville. Une ville qui est pas trop loin non plus, en proximité d'Éphèse, où ce qu'il va y avoir une influence certaine de Paul dans cette région-là au complète par le temps qu'il a passé à Éphèse, plus de 202 ans de sa vie, à faire des disciples, à enseigner la parole de Dieu. Et on peut juste imaginer les disciples qui ont été envoyés de Paul, qui ont été envoyés dans d'autres villes, et même Paul qui a dû voyager autour aussi dans d'autres villes et villages du coin. Et donc, on connaît cette ville à cause de cette femme, Lydie. Ensuite, cette ville, c'était une ville aussi, c'est la deuxième information importante de cette ville, c'est une ville militaire dans son antiquité. C'est-à-dire que cette ville a trouvé dans son histoire, son origine, lorsqu'un des grands rois de l'époque, Séleucus I, a fait la guerre à celui qui était dans la région de Troie, c'est-à-dire l'autre côté de Constantinople, du côté plus de la Grèce, on va dire. Et ils avaient des guerres et pour se protéger, cette ville était stratégique dans une embouchure de deux vallées qui venaient ensemble et qu'on devait voyager à travers pour aller sur le territoire turc actuel. Et cette ville-là était bien située et il avait fortifié, il y avait une garnison de soldats macédoniens qui étaient là et cette ville-là était fondée à cause de ça. C'était pas une belle grande ville, c'était pas une ville super cool à passer. Il fallait passer par là, c'était la ville de garnison de soldats et même un petit peu ingrate, c'est-à-dire que si ça allait pas bien, mettons, là, puis qu'il se faisait envahir, il était pas bien placé aussi pour se défendre, honnêtement. Fait que ça allait être aussi la ville qui allait être sacrifiée, qu'il y a des gens qui allaient courir de cette ville-là pour annoncer aux autres, mais qui allaient un peu retenir, mais qui seraient sacrifiés pour le bien des autres, en quelque sorte. Et donc, c'est pas une ville, lorsqu'on l'a visitée non plus, qui était super attirante, des maisons bien modestes, faites debout, des rues assez sales, rien de glamour, disons, contrairement à d'autres villes qu'on a regardées qui étaient des capitales de la région, pas celle-ci. Et ça influence beaucoup cette ville, puisque aussi, cette ville-là, à cause de tous ces soldats, bien évidemment, beaucoup de villes ont des patrons, hein, des saints ou même des dieux. Et à l'époque, ils avaient ça. Ils avaient pour patron Apollon, et qui était représenté même sur les pièces de monnaie de cette ville-là, comme ce chevalier, ce héros, ce guerrier, évidemment inspirant pour des hommes d'armée, qui chevauchent avec une épée pour défendre comme un vainqueur. Et on le trouve même sur des pièces de monnaie, ce dieu Apollon. Et il y avait aussi un autre temple important, mais pas glamour comme les temples qu'on a vus jusqu'à présent dans d'autres villes, là, d'une déesse aussi Cybèle. Mais tout ça pour dire que cette ville-là était liée à son histoire dans son antiquité, d'être une ville militaire et avait un dieu aussi, vainqueur, un dieu guerrier, un dieu qui a porté différents noms aussi avec les différentes époques, qui était important pour eux. Mais évidemment, avec les années, les guerres, c'est devenu une ville moins importante, moins stratégique pour la garnison, pour toutes sortes de raisons géopolitiques que je vous étirerai pas. Mais ça a amené à se diversifier vers devenir une ville marchande. C'est la troisième chose qu'il faut savoir. Une ville marchande où ce que, évidemment, on a entendu parler de Lydie qui était une marchande. Beaucoup de même dans la ville, il y avait des guildes, c'est-à-dire des associations, des regroupements de gens qui étaient vendeurs ou qui travaillaient dans la métallurgie, des gens qui étaient dans le textile, des gens qui étaient dans plusieurs métiers. Cette ville-là était reconnue pour ses guildes, ses groupes de métiers, associations qui travaillaient ensemble pour évidemment exporter leurs marchandises, pour se s'aider entre eux, pour l'influence face aux autres et tout ça. Il y avait des regroupements et on connaît pas tous les détails, mais certainement une chose qu'on connaît, c'est qu'il y avait aussi dans ces regroupements des pratiques liées à leur dieu. Et quand on faisait partie, il y avait des rencontres comme n'importe quel groupe de business aujourd'hui, des repas communautaires, des repas pour associatifs, et là-dedans, il y avait des pratiques évidemment païennes liées aux adorations des viandes sacrifiées aux idoles, et dans leurs pratiques aussi, il était très commun d'avoir des pratiques sensuelles de débauche dans leur adoration de leur dieu. Évidemment, ça venait chercher tous les sens de ces hommes et femmes d'affaires, et donc il y avait beaucoup de ces pratiques païennes qu'on a mentionnées justement dans le dernier sermon il y a deux semaines, d'idolâtrie ou de choses connexes à l'idolâtrie ou du compromis avec l'idolâtrie et de la débauche, du libertinage sexuel en dehors des liens du mariage qui n'honore pas Dieu face au plan que Dieu a donné à l'être humain, d'être un homme, une femme qui s'engage pour la vie et qui vont avoir des enfants et qui se multiplient et qui vont grandir dans cette relation de couple en dépendance de leur Créateur pour mener à terme leur engagement et cette vie familiale d'instruire une nouvelle génération. Et donc, c'est le contexte de cette ville en question ici, puis ça va nous aider à comprendre après ça pourquoi Dieu et Jésus se présentent comme il se présente et que le message est donné de la façon qu'il est donné. C'est le plus long la plus longue des lettres et le message le plus sévère. La partie reproche, là, la plus longue, c'est ici. C'est même quand tu lis, tu dis, oh boy, il est ramasse, hein, il mange pas ses paroles, les conséquences sont sérieuses, il y a du châtiment, il y a du jugement. Tu dis, OK. Des grosses conséquences, il y avait un gros problème. Et donc, le Seigneur va donner la vérité dans l'amour. Et j'ai mentionné ici toute la question des guildes et des regroupements associatifs. Et j'ai mentionné, dans mes notes, j'en ai beaucoup de détails, mais je vous épargne tout ça. Le problème, c'est qu'ils toléraient le péché et qu'il y avait du compromis et plus que ça, une tolérance qui est reprochée à cette Église. Je vous donne quelques images ici de cette ville encore aujourd'hui qui est visitée par des gens qui veulent découvrir davantage et ces villes de l'Apocalypse. Et il y a une série qui est sortie récemment faite par Redemption Media qui sort une série de 7 vidéos sur les 7 églises de l'Apocalypse pour nous aider à comprendre justement ce que je vous enseigne et le message qui est donné et toute la formation qui est donnée dans cette instruction aux 7 églises pour nous former devant la persécution, pour nous préparer dans notre attitude à dépendre de Christ devant les adversités que l'Église, encore aujourd'hui, est appelée à vivre. Fort intéressante série que je peux vous recommander. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur Jésus se présente ici pour la seule fois dans tout le livre d'Apocalypse. Il se présente comme le Fils de Dieu. C'est la seule fois. On le sait qu'il est le Fils de Dieu. Et Jean, l'apôtre Jean va en parler tout au long de son livre. C'était un des objectifs, que les gens découvrent que Jésus est le Fils de Dieu. Et par ce fait même, Dieu lui-même, incarné en homme. Et qu'en croyant, ils ont la vie éternelle. C'était le but de l'évangile de Jean. Pourtant, il en parle une seule fois, parce que c'est pas Jean qui va écrire tout ça. Il va écrire ce que le Seigneur lui a montré. Et le Seigneur Jésus va se présenter à une seule église avec ce titre de Fils de Dieu. Cette église-là. Fort intéressant. Pourquoi? Bien, son nom parle de sa divinité, son autorité. Il est Fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Et les Juifs entendaient, hey, il se présente comme le Fils de Dieu, et ils déduisaient, ils comprenaient très bien, s'il est Fils de Dieu, il est Dieu. Son autorité est claire. Et il détient cette autorité dans l'église. Deuxièmement, il est celui que les yeux. Et la description qui sont comme les flammes, on parle ici de jugement, c'est une image qui est reprise du chapitre 1, et qui est reprise plus tard aussi pour parler du Seigneur qui s'approche de eux comme Fils de Dieu, mais avec des yeux pour juger avec justice. S'il y a des flammes ici, dans ce cas-ci, c'est lié au reproche qu'il leur fait. Et ça suggère évidemment toute cette question-là de pouvoir percevoir ce que les êtres humains ne peuvent pas voir. Nous, on peut faire des belles actions et derrière avoir toutes sortes de mauvaises intentions. Le Seigneur, lui, on peut pas lui cacher ça par ses yeux qui voient directement le cœur, les motifs. Il va en parler un peu plus loin. Rien ne lui est caché. Et en plus, Bien, c'est intéressant, il se présente aussi avec des pieds d'airain, parce qu'évidemment, pour des gens qui étaient d'une ville guerrière, où ce qu'il y avait, en passant, une industrie de métallurgie, et même ils mélangeaient des métaux ensemble pour les rendre plus forts, des alliages pour les guerriers, et il y en avait souvent aussi sur leurs jambes pour se protéger cette partie-ci dans les combats, même des fois les genoux, ça dépendait des armées, comment d'argent qu'il y avait, de moyens qu'il y avait pour se protéger le corps dans les combats. Mais pour des guerriers dans le temps qui viennent avec ses pieds, qui sont semblables à de l'airain. C'est pas de l'airain, mais qui ressemblent donc à une métaux qu'on utilise pour le combat. Il est en train de montrer de l'autorité. Il est en train de dire, « Hey, lui, là, Apollon, c'est rien à côté de lui. » Il est en train de faire un contraste avec leur héros de la ville. Et Jésus est bien plus que ce héros, que ce Dieu de la ville qui était adoré et qui était sur les pièces de monnaie, qui était le guerrier par excellence. Non, non, le Fils de Dieu, qui, dans l'Apocalypse, chapitre 15, réutilise des images ici, lorsqu'il va revenir à la fin de la tribulation pour venir juger le monde avant le millénium et installer son règne. Il est présenté de cette façon-là. Il vient ici en juge. Mais là, c'est pas envers le monde, là, c'est envers son Église ici. Il va dire à l'Église, cette Église-là, dans cette ville-là, en utilisant une image locale qui est frappante, que le Fils de Dieu s'en vient pour juger et régler ses comptes parce qu'il y a du péché qui est toléré dans cette Église-là. Et malgré ses qualités, le Seigneur ne peut pas la tolérer. Et donc, la présentation, elle est significative, elle est ciblée. Deuxièmement, et là, je vois que le blanc ne sort pas aussi bien, la structure de la lettre actuelle. Le mot « œuvre » est utilisé 5 fois dans les versets qu'on vient de lire. Et c'est intéressant, si on les regroupe ensemble, on voit ici qu'il va parler des œuvres de Thyatire, leur qualité. En passant, il va parler de leurs œuvres ou ses œuvres en parlant de cette Jézabel-là puis la contamination qu'elle amène dans la vie des gens dans l'Église. Et finalement, il les invite à prendre mes œuvres. Tu as peut-être tes œuvres, il y a peut-être des œuvres qui sont problématiques, mais la solution se trouve à prendre mes œuvres. C'est ce qu'on retrouve dans ces versets-là. Dans la recommandation de leur qualité, dans l'exhortation de leurs problèmes qu'ils ont besoin de changer et dans la promesse et l'invitation à suivre son exemple, mes œuvres. Ça résume ce qu'on est en train de lire ce matin, en gros. Regardez les qualités. Je les mentionne rapidement, mais ils sont importantes. C'était des belles qualités parce qu'évidemment, comment se manifeste l'amour? Bien, elle va se manifester par un service fidèle. Parce que j'aime, je sers fidèlement le Seigneur. Et le mot est là, il est fort. Hein? Ton service fidèle, c'est le mot duquel on a le mot diacre. Et vous êtes des diacres fidèles. Vous avez un comportement diaconal. Mais d'où ça vient? Ça venait de leur amour. Alors qu'on a une église qui avait perdu son amour, eux autres, il y avait de l'amour, puis il y avait un service qui en ressortait clairement, qui témoigne de la vérité de cet amour-là. Ils avaient la foi, mais comment s'est manifestée leur foi? Ils étaient persévérants, constants. Et, c'est pas rien, tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Donc, il y avait une croissance. Il y avait une croissance dans cette église-là. Il y avait des bonnes œuvres et il y avait un progrès. Et c'est pas rien la liste qu'on retrouve là lorsqu'on compare à d'autres. C'est comme, waouh, c'était des belles qualités. Et néanmoins, malgré ces belles qualités, le Seigneur se voit obligé de quand même lui faire part des problèmes qu'elle vit. Et vous savez, toutes nos belles qualités ne peuvent pas effacer les défis qu'on a dans notre vie. Des fois, on aime se cacher derrière nos qualités et d'éviter de parler de là où il y a des défis dans ma vie. Et vous savez, il y aura toujours des défis dans ma vie. Tant qu'on est sur terre, on va avoir des combats. On ne peut pas grandir si on ne les reconnaît pas, si on tente de les cacher. Que j'ai un problème avec mes pensées négatives, que j'ai des problèmes avec la violence, des choses qui seraient dans ma tête ou à l'extérieur, à l'apparence, peu importe l'ampleur où va sortir mon péché, ou qu'il paraît beaucoup ou pas beaucoup. Je ne peux pas me cacher derrière mes qualités. Et vous savez, ce qui est dommage des fois, c'est que des fois, en ne voulant pas adresser nos défis, écoutez bien ceci, nos défis puis nos péchés peuvent devenir tellement importants dans nos vies qu'ils peuvent en venir à éclabousser, comme de la boue, nos qualités et les cacher. combien de fois j'ai vu dans ma vie, et elle n'est pas si longue que ça, ma vie, elle a juste 46 ans, ma vie. Mais en 46 ans, j'ai vu des gens qui avaient des belles qualités et que pourtant, dans des sphères de leur vie, les problèmes étaient tellement importants et pas adressés qu'on ne voyait plus leurs qualités. Tellement que la boue de leur faiblesse avait éclaboussé leurs qualités. Et là, les gens viennent insulter. « Ouais, mais là, on me dit toujours que je fais de mal, puis on ne voit pas mes qualités. » Ça devient encore là. Je me victimise pour faire un effet miroir, hein, pour éviter de regarder mes problèmes. Dites pas ça. Cachons-nous pas dans nos couples, devant nos enfants, au travail. « Tu me dis jamais mes qualités, tu me dis juste les choses négatives. » Peut-être c'est vrai. Mais c'est la phrase qu'on utilise souvent pour éviter de prendre part entière dans les défis que Dieu confronte dans ma vie et qui peuvent devenir tellement importants que justement, on ne les voit plus, tes qualités, des fois. Et ça, c'est triste. C'est triste. Et donc, le Seigneur ici leur parle des vraies affaires et ça nous rappelle la vérité qu'on retrouve dans la première lettre aux Éphésiens que Paul écrit. Et qui leur parle de l'importance de parler de la vérité et de dire les vraies choses, mais dans l'amour. Il faut qu'on accepte les vérités et il faut qu'on les communique, ces vérités-là, dans l'amour. Je lisais l'histoire d'un jeune homme qui était un exemple, un jeune homme de 17 ans. Puis, écoute, le jeune homme, là, c'était comme l'enfant parfait des parents. Il était gentil avec ses frères et sœurs. Il était serviable à la maison, aux études. Il avait un job à temps partiel. Puis avec sa job à temps partiel, il restait à avoir des bonnes notes. Il faisait ses affaires. Puis au niveau du comportement extérieur là, de toutes les autres familles, c'était comme « Ah, le petit garçon modèle ». Il allait à la jeunesse régulièrement. Il avait une belle attitude. Mais il y avait un petit défi. C'est que la semaine passée, puis c'est pas passé ici, c'était ce qui était raconté. Quand il est derrière un volant, ouf! Puis là, il est sorti de la cour d'église l'autre fois en viroyant, puis il a failli frapper deux enfants. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les parents, quand quelqu'un leur raconte qu'est-ce que leur fils a fait? Ah, il a tellement des belles qualités, là, tu sais, c'est pas grave, il le regrette, là, c'était juste un petit étourdissement d'un moment, là, tu sais. On va banaliser, on va expliquer, on va minimiser, parce qu'il est tellement dans son ensemble avec des belles qualités. Ou est-ce que si finalement il frappe quelqu'un, on va-tu faire, ouais, mais tu le juges, tu sais, écoute, il y a la jeunesse régulièrement, là. Puis écoute, il a des bonnes notes à l'école, puis il est tentant au travail, puis il a un bel équilibre, puis il est fin à la maison, là, cet enfant-là, là, c'est terrible. Je peux lui demander n'importe quoi, il a toujours une belle attitude. Vous pensez que ça va changer le jugement d'un juge quand que finalement il y a un parent plaignant parce que son enfant a été frappé par le chauffeur qui ne contrôle pas derrière un volant? Comment loin qu'on va justifier nos péchés puis les minimiser lorsqu'il y a un défi comme ça? Et le Seigneur y fait face ici. Là, dans ce cas-ci, contrairement aux autres, il développe un peu plus. Le problème semble peut-être plus étendu que dans les autres églises. Mais il n'épargne pas de dire la vérité. Il parle de Jézabel. Il parle de cette Jézabel-là, puis on comprend ici, puis la plupart des auteurs comprennent que c'est pas la vraie Jézabel qui est revenue à la vie, là. C'est pas non plus peut-être une femme qui s'appelait Jézabel, mais probablement une femme qui a une influence importante, qu'il traite de Jézabel à cause de la Jézabel de l'Ancien Testament. Cette femme qui veut tuer les prophètes, cette femme qui soutenait 850 prophètes de Baal et d'Astaté, qui venait du roi qui était de Sidon, si je me trompe pas, et dont le propre père avait déjà fait assassiner des gens pour lui-même devenir roi. Et il y avait du sang dans cette famille-là. Et quand elle est devenue la femme d'un roi d'Israël du Nord, elle a fait assassiner des gens pour avoir leur terre. Elle a fait tuer les prophètes. Elle a amené l'idolâtrie des Astartés et des Baals dans son pays, pas à peu près. Et le pays va être contaminé de ça pour un siècle et demi jusqu'au jugement de l'Éternel sur la partie nord d'Israël. Elle va laisser une marque et avoir des enfants influencés par ces valeurs immorales qui vont se transmettre de génération et vont laisser une marque permanente en Israël. Cette femme est une histoire d'horreur. Lisez cette histoire dans le livre de Un roi. les chapitres 16 jusqu'à la fin du livre d'un roi. Et vous allez voir un peu quelques péripéties avec cette femme. Elle n'est pas reposante. Et à un tel point qu'elle a été même, à un moment donné, elle a menacé la vie de Élie. Vous connaissez cette histoire-là. Elle a menacé la vie d'Élie lorsqu'il a arrêté, évidemment, de pleuvoir en Israël et qu'il avait prié pour ça. Et elle est tellement intimidante que dans un moment de faiblesse, Élie va être jeté à terre par cette femme-là. Elle est tellement intimidée qu'il va se sauver très loin dans le désert et brailler et vouloir mourir. Elle faisait peur, cette femme-là. Et là, on nous dit qu'il y a une Jézabel dans l'église. Il y a une femme comme ça. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas venue de l'extérieur. C'est pas... On dit qu'elle était une fausse prophétesse. Et elle enseigne dans l'église. Vous l'avez laissé faire, puis elle enseigne dans l'église. Vous ne devriez pas laisser ça arriver. Mais le problème, c'est que lorsque les gens viennent de l'intérieur, c'est plus subtil. Et Paul a averti, il dit... Il va venir, lorsqu'il a parlé à Éphèse, en Actes chapitre 20, il va dire, faites attention, soyez vigilants. Il va venir de l'intérieur. De l'extérieur, c'est comme plus facile. OK, c'est un ennemi qui vient de l'extérieur, qui veut nous faire rentrer des mauvaises choses, une mauvaise influence. C'est pas quelqu'un de l'intérieur. Mais quand ça vient de l'intérieur, ça s'est fait tranquillement, subtilement. Quelqu'un qu'on connaissait, puis là, tranquillement, il y a un changement qui se passe. Là, c'est plus tough. Puis il dit, il va y avoir des loups parmi vous qui vont venir affecter le troupeau. Faites attention. Des gens qui vont tranquillement séduire, et le mot utilisé ici, là, c'est qu'ils vont égarer. Quand il parle de séduire ici, ils vont les faire perdre leur temps, tourner en rond, les amener finalement à perdre le focus, à être distraits par des choses qui sont secondaires et qui vont prendre toute la place, tranquillement mais sûrement. Et une personne qui, de l'intérieur, avait un bon respect des gens, tranquillement, qui amène une fausse doctrine, là, c'est plus dur à bloquer. Et ils se sont fait tranquillement avoir et ils ont toléré. Le mot qui est utilisé, vous l'avez laissé. Puis c'est un peu comme c'est le même mot en passant quand il dit vous avez abandonné votre premier amour. C'est le même mot. Vous avez laissé votre premier amour. Puis c'est un peu un verbe passif, là, que, oups, je l'ai échappé. Colin, je viens de m'en rendre compte, là, puis je vais le rattraper. Non, non. Il dit, vous l'avez laissé. C'est un verbe actif. Il y a une décision. Il y a une négligence qui est identifiée par ce verbe-là. Il y a une tolérance qui est identifiée par ce verbe-là. Vous auriez pu faire quelque chose, vous auriez dû faire quelque chose, et vous l'avez laissé faire. Parce que là, tranquillement, c'est rentré, on est venu habitué, et on comprend par les reproches qui sont faits sur la pratique de la sexualité, sur le compromis, idole, etc., on comprend que probablement, il est en train d'influencer les gens à dire, c'est pas grave, là, si dans ton groupe associatif, là, ils font des pratiques. Tout dans ton cœur, c'est pas ça que tu veux faire. Tu vas juste pour les relations d'affaires. Parce que, tu sais, à la fin de la journée, on l'entend aujourd'hui, tu sais, business is business. Les affaires, c'est les affaires. Mais c'est pas les affaires d'église, là, tu sais, là. Puis là, ma business, là, Dieu me rend responsable de ma business, là. Puis là, si je veux réussir, il faut que je fasse des choix, là. Puis des fois, c'est pas toujours évident. Des fois, il y a des petits coins qu'on coupe. On déclare pas tout. Il y a des affaires que, tu sais, là, il n'y a pas besoin de savoir ça. Puis là, tu peux me payer en argent, c'est pas grave. Tu veux-tu une facture, pas de facture avec ça. Puis tu sais, telle personne, si je fais pas ça, ben là, il y avait les mêmes problèmes qu'aujourd'hui, vous savez, au niveau d'affaires. Que des fois, on peut faire les affaires comme le monde, même si on se dit chrétien. Et on peut tolérer des choses qu'on ne devrait pas tolérer. Et à quelque part, dans cette ville-là de marchands, de business, où il y avait un mélange entre les affaires puis le paganisme, c'est-à-dire cette libertinage sexuel et ces pratiques d'adoration et de viande sacrifiée à des idoles, probablement Mme Jézabel est en train de dire aux gens, c'est pas si grave, faites-vous-en pas exagérer. Seigneur le sait que c'est pas facile de vivre chez nous, puis si tu veux être en business, il faut que tu aies ces rencontres-là, puis il y a un petit peu de compromis, puis... Finalement, il y avait de plus en plus de disciples de cette croyance-là. Et là, le Seigneur va adresser l'Église dans son ensemble. Il y a des exceptions, il va en parler, là. Mais il y a un problème répandu qui a été laissé aller. Puis son influence n'a pas été arrêtée par les dirigeants de l'Église. Ça a été toléré. Et là, les gens sont contaminés. Et le problème est tellement rendu grave qu'on est rendu ici. Il dit, là, je vais la juger. Il va mentionner ici quelques reproches importants. Dieu lui donne un temps. Et il dit, là, je lui donne un temps pour ça. Et c'est là, le Seigneur est gentil, il est gracieux. Il n'a pas jugé dessus. Il dit, je donne un avertissement. Vous le savez depuis un certain temps, mais je donne un avertissement, je donne un délai de temps pour qu'elle se repente, mais il n'y a pas de repentance qui arrive. Et il va condamner, il dit, je vais la jeter sur un lit. Évidemment, il y a un jeu ici avec l'idée que le lit de la débauche, bien là, il va y avoir un lit de jugement. soit la maladie, et même il va parler de la mort pour des disciples de cette femme-là qui influence l'Église et qui les amène dans le péché. Une grande tribulation même est utilisée comme expression. Fait que c'est un gros jugement qui va être tellement fort que les églises autour qui vont voir, puis ils le mentionnent, hein, pour que les autres voient. Si c'est sérieux, on tolère pas ça. Mais vous savez, des fois, on veut tellement être fin. On veut pas déranger, pas paraître comme celui qui juge, pas paraître comme celui qui pour qui tu te prends, tu sais. Toi, t'es mieux, toi, t'as pas de péché dans ta vie. On a peur qu'on se fasse peut-être confronter avec nos faiblesses. Et là, on n'ose pas dire à quelqu'un, tu sais, ce que tu fais là, c'est mal. Hey, c'est ma business, c'est pas de tes affaires. Ben non, c'est pas vrai ça non plus. On est frères et sœurs en Christ. Si tu runs mal ta business, puis tu fais du compromis, ça affecte ma vie spirituelle. Parce qu'on est une famille. On est un corps, on est un tout. Et chaque brique dans le mur compte. Et une brique affaiblie, c'est le mur qui en est affaibli, les amis. Ta vie sexuelle, on en est affecté. Ta gestion des affaires, ton honnêteté, on en est affecté. Parce qu'on est une famille. On n'est pas indépendants les uns les autres. C'est pour ça que c'est important. Et s'il parle à l'Église, parce que oui, effectivement, le compromis dans le business a eu un impact. Et diminuer l'efficacité de cette Église-là, malgré les qualités qu'elle avait. Mais là, on n'ose pas trop dire les choses. Le Seigneur nous invite à dire la vérité dans l'amour. Ce n'est pas une garantie que parce que j'exhorte quelqu'un à la vérité, avec humilité, et que je le dis avec amour et respect, que la personne va se repentir. Mais ce n'est pas une excuse pour ne pas exercer cet amour et de le dire. Il y a des gens à qui j'ai été dire la vérité, puis ils ne l'ont pas apprécié. Puis il y a des gens à qui j'ai été dire la vérité, puis ils ont dit merci, puis qui se sont repentis. Et je vais vous dire quelque chose, c'était pas la dureté de mes paroles qu'ils ont gagné. Non. C'était la grâce de Dieu. C'était la grâce de Dieu. Mais j'ai pas d'excuse pour le faire comme il faut, avec respect, avec humilité. Il dit, regarde, moi aussi j'ai des péchés. Puis je suis pas en train de te dire que moi je suis mieux que toi. J'ai juste que j'ai vu ça, puis le Seigneur me met à cœur de t'en parler. Puis il y a tel frère qui l'a, telle sœur qui l'a vu, il y a telle personne qui... Puis là, c'est un mauvais témoignage. Puis tu le sais, qu'est-ce que la Bible dit là-dessus. Laisse pas ça. Ça vaut pas la peine. Et souvent, c'est dans le matériel. Et c'est aussi dans nos mœurs sexuelles aussi. Que là, il y a des nuances, puis qu'on n'ose pas trop, puis on ça, c'est pas de mes affaires. Non. Notre but, c'est pas de chercher de mêler des affaires des autres. Le Seigneur nous invite à avoir des endroits à se mêler nos affaires. Mais il faut dire la vérité dans l'amour. On est une famille. Puis c'est tellement important pour l'ensemble de l'Assemblée. Il y aurait tellement à dire, mais je pense que le point est communiqué et l'essentiel de ce que j'ai à vous dire à ce point-ci a été dit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la toute fin, au verset 23, et je vous le relis, il dit, « Ces enfants, je les frapperai de mort. » C'est grave. Et toutes les églises le seront. Fait qu'il va avoir un exemple, il va avoir un avertissement qui va être bon. Et là, il va utiliser une expression qui vient de Jérémie, chapitre 17, verset 10, que c'est l'Éternel qui est attribué ces paroles-là, mais là, on les attribue à Jésus. Il dit, « Et je suis celui qui scrute les reins et les cœurs. Et à chacun de vous, je rendrai selon ses œuvres. » Ces paroles viennent littéralement de Jérémie 17, 10. Écrivez-le à côté. Et je vous lis 17, 10, qu'est-ce qu'il dit? « Moi, l'Éternel, j'explore. » C'est juste une différente version, mais les mêmes mots. « J'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite et aux fruits de ses agissements. » Donc, les reins qui sont le siège des sentiments, des émotions, le cœur qui est le siège de la pensée, de l'intellect, de la volonté de l'homme. Et dis-moi, mes yeux qui percent permettent de tout évaluer ça. Et quand il est en train de dire ça, le Seigneur Jésus, comme Fils de Dieu, il est en train de dire qu'il est l'Éternel. Il a cette autorité-là, il a cette capacité-là comme Créateur de savoir tous ces détails-là intérieurs. Puis il dit, je veux juste être clair, il n'y a personne qui va s'en tirer. Là. Vous ne pouvez pas me tromper. Peut-être les chrétiens autour de vous peuvent mal vous juger trop durement ou trop superficiellement et pas voir les défis. Mais moi, vous ne pourrez pas me tromper. Je suis celui qui fait les évaluations que le docteur n'est pas capable de faire. Oh là, la psychologie aujourd'hui, bon, on essaie d'évaluer comment ça va dans ma tête, comment la santé mentale, mes pensées positives, négatives, mes luttes, mon moral va. Mais on peut berner quelqu'un par les réponses. On peut manipuler le diagnostic, malheureusement. On est humain. Mais le diagnostic de Dieu, les amis, le parfait diagnostic existe, mais chez celui qui nous a fabriqués, où ce que lui, on ne peut rien y cacher. C'est pour ça que ça ne vaut pas la peine de s'entêter dans une mauvaise direction quand on est confronté à notre défi. Parce qu'on ne pourra pas y échapper. Peut-être devant ton docteur, peut-être devant ta femme, ton époux, devant ton employeur, tes enfants, mais devant l'Église, peut-être tu vas t'en... Mais pas devant ton Créateur. Lui sonde parfaitement. Il est en train de dire, « Hey, ma réprimande, là, il faut que tu apprennes au sérieux. Il faut que tu apprennes au sérieux. Ça va te coûter trop cher. » Et on pourrait penser à d'autres versets qui nous disent des vérités similaires. Et la prière du psaume 139. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ça, c'est la prière de celui qui accepte de dire, « Oui, Seigneur, j'accepte ton examen puis je te demande de me rectifier sur le bon chemin quand je me suis égaré sur une voie de service, sur une belle petite route qui avait de l'air belle mais qui finalement s'éloigne du chemin principal que tu as pour moi. Oui, Seigneur, je te donne la permission, fais-le. » C'est ce que cette prière du psaume 139, les deux derniers versets, quelle prière, les amis, quelle prière qui démontre notre ouverture de dire, oui, c'est peut-être dur pour moi, mais Seigneur, j'accepte. Je vous lis ici les versets 24 à la fin avec lesquels on va terminer ce matin l'encouragement du Seigneur. « Mais je vous le déclare à vous qui attire, restez sans partager cette doctrine. » Ah, il y avait des gens qui s'étaient pas attachés à cette doctrine-là. « Et sans avoir sondé leur prétendue profondeur de Satan. » Oh, OK, là, on vient juste de dire un autre commentaire important. Ils ont sondé les profondeurs de Satan. C'était assez grave pour identifier cette expression-là. Là. Donc, d'autres églises, dont l'église de Corinthe, le Seigneur parlait de les profondeurs de Satan et les profondeurs du bien aussi dans 2 Corinthiens. Ce n'était pas une expression inconnue, c'est les profondeurs de Satan. Il y avait un côtoiement sérieux avec le mal. Mais à vous, qui êtes restés sans partage, qui n'ont pas embarqué là-dedans, je ne vous impose pas d'autre fardeau. Fait qu'il y avait une gang là-dedans qui s'est dit, regardez, je ne vous en mets pas plus. Là. Vous avez des belles qualités, puis vous avez résisté. Juste de résister, gang, je suis fier de vous autres. Que vous n'êtes pas mélangé les pattes là-dedans. Je ne vous mets pas d'autre fardeau. Il n'y a pas de poids que je mets sur vous. Eux autres, je mets un poids. Un poids de jugement pour lequel je vous invite à se repentir. Mais vous, je ne vous mets pas de poids. Puis si on est en train de faire ces lettres, puis que le Seigneur ne vous montre pas quelque chose, mon but, ce n'est pas de peser plus fort, puis qu'à un moment donné, il va en avoir un, puis on l'a tous dépêché. Il y a sûrement quelque chose. Puis c'est pas ça le but. Puis il y a des moments où le Seigneur nous confronte à un péché. Puis il y a des moments où le Seigneur dit, regarde, tu es dans le bon chemin, je sais que tu es accablé par ce qui se passe autour, ta préoccupation pour tel frère ou telle sœur qui ne va pas bien, puis tu l'as encouragé, tu pries pour lui, pour elle, ça te pèse. Il dit, regarde, juste de résister à tout ce qui est autour de toi, là, je suis fier de toi, puis lâche pas, puis continue. Puis moi, je ne mets pas de fardeau. Tu sais, je sais que déjà comment c'est, tu portes sur ton cœur des gens, laisse mes épaules. Moi, ce n'est pas mon but de te mettre des fardeaux sur les épaules. Et là, il y a une belle compassion de Dieu, de Jésus ici, sur ceux qui souffraient dans cette église-là, puis qui étaient conscients de ce qui se passait, puis qui, pour ça, différentes raisons, ils n'étaient pas accusés d'avoir fait du compromis aux autres ou de cautionner. Peut-être qu'ils en avaient parlé, puis d'autres personnes avaient décidé de ne pas aller de l'avant pour dire non, il faut discipliner ça. Non, il faut dénoncer ça. Puis là, il faut séparer des gens avec l'Assemblée qui sont en train de contaminer. Et c'était ça le problème, ils avaient toléré. Et il ne coupait pas avec le mal, puis il tolérait, puis ça contaminait les gens. Et c'est à ça que ça sert, la discipline biblique, vous savez. Personne n'aime ça faire de la discipline biblique. Personne n'est obligé de voir quelqu'un faire un suivi. La personne ne veut pas. Puis là, regarde, on est désolé, mais tu te dis chrétien, puis tu ne veux pas te comporter en chrétien. Puis là, ce comportement-là influence d'autres personnes, puis il faut arrêter ça. Puis si ça continue, on va devoir discipliner. Personne n'aime ça faire ça. Et comme pasteur, on a dû le faire. Puis je peux vous le dire, là. Quand on le fait, on prie, puis on shake à l'intérieur. on vous en parle avec tremblement à chaque fois. C'est pas le fun. Tu veux pas te tromper. Tu veux le faire avec amour, avec équilibre. Tu veux pas lancer un message qu'on est une église sectaire, mais tu veux pas lancer un message qu'on tolère ce qui est inacceptable, puis que Dieu veut qu'on se coupe avec. Puis que certaines relations, des fois, il faut dire non. C'est pas un sujet populaire, ce que je vous dis là. Et pourtant, beaucoup de passages parlent de l'importance de cette discipline biblique et de l'adresser dans l'Église. Il dit, vous autres, gardez, je ne vous mets pas de poids dessus. Il dit au verset 25, « Seulement ce que vous possédez, retenez-le. Tiens-les fermes, ce que tu as de bon. Laisse-les pas aller jusqu'à ce que je vienne. » Et là, pour la première fois, à l'Église, Jésus parle de son retour pour l'Église. De l'enlèvement. Jusqu'à ce que moi, je vienne pour toi, Église. Tiens ferme ce que tu as de bon. Il y a peut-être un combat. Il y a des gens qui sont des fois décourageants, qui ne semblent pas tenir aussi ferme que toi. Non, non. Continue à tenir ferme. Tu ne le regretteras pas lorsqu'il va revenir, qu'il va récompenser cette fidélité-là. Lorsque tu n'auras pas à rougir parce que tu as pris à cœur ces avertissements qui disent « Soyez sobre, prenez garde, retenez ce qui est bon. » Puis parce que les autres, « Ah, ben moi, je suis me relâcher parce que les autres, ils ne font pas autant d'efforts. » Non, non, non. Cache-toi pas devant les autres qui peut-être te découragent ou qui ne semblent pas autant y recevoir. Non, continue à faire ce qui est bien. Tu ne vas pas répondre des autres. Et Seigneur, ici, il y a une belle attention pour les gens qui étaient affectés et pour les encourager à juste maintenir ce qu'ils ont et de ne pas se décourager et ne pas mettre des fardeaux, un poids, une charge sur eux, mais de les encourager à juste tenir bon, ce qui est un dépôt de bénédiction dans leur vie et qui amène justement la paix pour eux, même à travers des moments difficiles. Et finalement, il fait cette promesse, une promesse qui pour nous autres peut-être peut être un peu abstraite. Je la lis, le vainqueur. Celui qui garde jusqu'à la fin mes œuvres. Alors, je vous ai parlé de vos œuvres, c'est bien, vous avez des belles qualités. Il y a ceux-là qui avaient des problèmes avec leurs œuvres, puis ils vont devoir être récompensés pour ces œuvres-là à eux, qui se sont attachés à Jézabel. Mais là, il dit, pour ceux qui vont tenir mes œuvres. Et peut-être, c'est la question, Seigneur, je fais des œuvres. Je juge les œuvres des autres, des fois. Des fois, j'ai raison, puis des fois, j'ai pas raison. Je suis juste un humain. Mais Seigneur, à la fin de la journée, la grande question, c'est est-ce que je fais tes œuvres? Je suis fier de mes œuvres. Les autres ont des œuvres, bonnes ou mauvaises. Mais c'est pas ça qui est important. Moi, est-ce que c'est tes œuvres qui sont dans ma vie? C'est-à-dire des œuvres qui sont le sous-produit de la transformation du Seigneur, qui sont le résultat, qui ne sont pas poussé puis crinqué, mais des œuvres qui, parce que je suis dans la reconnaissance, parce que je suis béni, parce que l'Esprit de Dieu est en moi, il fait des choses dans ma vie. Ça, c'est ses œuvres. Et ça, c'est récompensé. Ça, c'est divin. Ça, ça laisse une saveur à ceux qui nous côtoient, les œuvres. Des bonnes œuvres, c'est bien. Mais ça ne veut pas toujours dire que ça vient de la même source. Ça peut être religieux. Ça peut être trompeur. Comme ça peut être de la source du Seigneur. Mais ça, c'est juste entre vous et Dieu, entre moi et Dieu. Est-ce que c'est mes œuvres, des bonnes œuvres, ou est-ce que c'est tes œuvres en moi que tu produis? Et c'est ce qui veut les amener à réfléchir lorsqu'il est en train de leur dire ceci. Ou est-ce que jusqu'à la fin, mes œuvres, je lui donnerai le pouvoir sur les nations. Parce que rappelez-vous, ici, c'est une ville guerrière, c'est une ville qui, dans son antiquité, une garnison qui a des hommes d'armée qui veulent gagner, qui veulent être ceux qui gouvernent. Et il y a ce désir dans le monde, évidemment, de vouloir gouverner le monde. Et ici, cette partie du texte fait référence aussi au psaume 2. Vous pourrez le lire à la maison. Mais il y a des éléments dans le verset 26 et 27 qui sont influencés par le psaume 2, où ce qu'on voit, la tension du monde qui veut rejeter l'autorité de Christ, l'autorité du Créateur, qui veut se foutre de ce que le Créateur nous donne et qui trouve toutes sortes de moyens pour se rebeller. Puis il est en train de dire, non, il y a une autorité. Puis il rit de notre rébellion humaine parce que c'est ridicule. Puis à la fin, on est invité à se soumettre à ce grand berger Créateur qui est nôtre. Et c'est ce psaume-là qui influence les paroles de Jésus ici. Il parle de ce pouvoir que les nations veulent avoir, mais il dit, je vais lui donner le pouvoir sur les nations. Et c'est ce qu'il dit qui va arriver dans le millénium. Les croyants vont être appelés à régner avec Christ en autorité sur les nations. C'est pas rien, ça. Il les mènera ou les conduira paître avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. » Il reprend encore là le psaume 2 et il prend une image de berger et de roi en même temps. D'un côté, il est ce berger comme le psaume 23, le même verre qui conduit, mais là, il n'y aura pas une canne de bois de berger, là. Il va avoir un sceptre de métal, d'autorité royale. Puis le jugement qu'il va faire pour les conduire va amener que ça ne sera pas juste une patte cassée ou une redirection, que ça va être un vase éclaté. Ouf! Oui, le berger, il est aussi un roi. Il y a aussi une autorité qui dit, « Hey, je te dis d'aller par là. » C'est pas des jokes, là. Mais il te laisse le choix. Mais après ça, tu fais le choix aussi de vivre les conséquences de ce que le berger et roi de ma vie peut faire dans une rébellion totale et finalement amener à briser le vase. On parle de jugement ici encore et de manière claire, en même temps en utilisant l'image du bon berger que Jésus est, du berger du psaume 23, avec les mêmes paroles. Et là, il fait cette promesse. De même, moi aussi, j'ai reçu pouvoir de mon Père et je lui donnerai l'étoile du matin. C'est Jésus ici qui parle. L'étoile du matin est pour nous peut-être quelque chose d'un peu abstrait. Je voulais juste une explication pour vous aider à apprécier cela. Premièrement, l'étoile du matin, il va apparaître comme l'étoile du matin, le Seigneur Jésus lui-même, et c'est une expression utilisée pour parler de Jésus lui-même dans le chapitre 22, verset 16. Vous pouvez l'écrire à côté, chapitre 22, verset 16, à la fin du livre d'Apocalypse. Parlant de sa lumière et comment il va éclairer l'aube du jour pour les siens, l'Église. Deuxièmement, peu de temps après, il va revenir comme le soleil de justice, nous parle Malachie chapitre 2. Pour enlever l'Église, excusez-moi, dans sa puissance et sa gloire visible pour le monde entier cette fois-ci. Alors, il y a ici, premièrement, une belle image de l'enlèvement de l'Église, lui qui est l'étoile du matin, et qu'on parle ici pour la première fois dans ces quelques versets, de cette venue du Seigneur pour son Église. Et que l'on soit vivant ou mort à ce moment, nous le verrons, car il viendra chercher l'Église pour être avec lui. Et pensez-y. Il parle ici de notre venue en sa présence dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, dans notre demeure permanente plutôt que temporaire dans laquelle on vit. C'est une promesse ici pour l'Église qui est hyper significative, qui utilise les astres pour faire cette analogie du Seigneur qui vient pour eux et qui va revenir de manière finale comme jugement sur le monde. Et je vous termine ce matin avec cette réflexion. Chacune de ces lettres-là amène différents angles. Et le livre d'Apocalypse n'est pas en train de nous dire que les sept églises d'Apocalypse couvrent parfaitement tous les genres de problèmes qu'il peut y avoir dans ma vie, dans votre vie. Tous les genres de problèmes qu'il peut y avoir dans l'Église. Et une des belles exercices que vous pouvez faire en lisant ces lettres, c'est demander, Seigneur, si tu m'écrivais une lettre personnellement, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait, cette lettre-là? Comment tu te présenterais à moi, avec ma personnalité, avec mon vécu, mes défis, mes forces? Ça serait quoi l'image que toi, comme Seigneur Jésus, te présenterais à moi qui me parlerait personnellement? Ça serait quoi les qualités, Seigneur, que tu mettrais dans ma lettre à moi? Les choses que tu m'as fait faire, les dons que tu m'as donnés, les choses que je produis là, pour toi, là, puis que c'est pour lesquelles ça me rend fier, puis que ça m'excite de faire ça. Puis Seigneur, ben dans ma lettre aussi, ça serait quoi les affaires qui... C'est un défi pour moi. Peut-être elle est dans une de ces églises-là, peut-être elle n'est pas, puis elle est dans un autre épître à quelque part, que ça serait ça que tu me dirais. Je suis fier de toi, tu as ça comme force, puis je t'ai donné tel don, puis je le vois l'utiliser, puis je le vois comment tu es heureux quand tu le fais, puis c'est cool, j'aime ça te voir aller, ça me rend fier. Il y a un petit défi que j'aimerais ça te souligner. Il y a un endroit dans ta vie où il y a peut-être un péché, un endroit que tu minimises l'importance, hein, quelque chose qu'il y en a qui t'ont parlé, puis à chaque fois tu as des excuses, puis ce serait quoi, Seigneur, que tu mettrais dans ma lettre à moi où est-ce qu'il y a un défi que je dois relever, puis que tu veux que j'arrête de reporter. Puis après m'avoir dit mon défi, Seigneur, ça serait quoi la promesse que tu me ferais pour m'aider là, à avoir une promesse qui m'aiderait à relever ce défi-là? Parce qu'à chaque fois, il donne un encouragement, le Seigneur. Il dit pas, t'as tel problème, arrange-toi avec tes troubles. Non, c'est un papa. C'est un berger. Attentionné. Il ne me demande jamais quelque chose sans me donner des ressources pour y arriver. C'est quoi tu me donnerais, Seigneur, comme promesse? Comme promesse dans les Écritures, peut-être c'est une des promesses qu'il y a là, mais peut-être ça ne me parle pas ces promesses-là. Puis il y en a une dans les psaumes, dans une des épîtres. Que ça serait ça ma promesse, que je peux toujours me tourner pour relever ce défi-là. Regarde, tu as fait cette promesse-là, je vais me tourner vers cette promesse-là, puis ça va m'aider à continuer. Ça serait quoi la promesse que Dieu me donnerait à moi? Puis dans cette promesse-là, l'aspiration. Qu'est-ce qui arriverait si chacun d'entre nous, on irait dans la prière devant le Seigneur, puis demander ces questions-là? Pour qu'il me parle personnellement, puis que ce ne soit pas juste des églises qui ont existé, c'est des problèmes, je ne me sens pas vraiment interpellé. C'est possible. Mais demande à Dieu de t'écrire ta lettre, de te la montrer à quoi qu'elle ressemblerait. Et je peux vous dire quelque chose. Tu ne resteras pas indifférent devant ces lettres-là, à poser des questions au Seigneur, puis trouver les réponses qu'il veut te montrer dans ta lecture personnelle. Parce que pour trouver les réponses, tu vas aller dans la prière, tu vas aller à genoux pour trouver les réponses. Tu vas aller dans la lecture des Écritures pour entendre sa voix et voir les promesses, de voir les choses qui viennent dans ma vie, voir les choses qui aspirent, puis voir les qualités que, oui, ça, je vois ça, ça m'encourage. Tu vas devoir prendre du temps avec lui pour avoir les réponses. Relationner pour que le Seigneur réponde à tes questions. Et si tu fais ça, mon ami, tu vas aller beaucoup plus loin dans cette série que la lecture et les prédications qu'on va faire, aussi bien qu'ils puissent être, il n'y a rien qui va être aussi productif dans ta vie pour du changement que si tu amènes chacune de ces choses-là devant le Seigneur, avec ces questions-là, et demander au Seigneur. Pourquoi pas demander au Seigneur ce matin, cette semaine? Vous savez, Dieu est patient, puis on est reconnaissant de la patience de Dieu, puis il demande encore dans cette lettre-là la belle patience qu'il a, le Seigneur, envers nous. Il donne des chances, il donne encore un délai, même s'il savait le mal qui avait été fait. Mais il ne faut surtout pas prendre la légère notre infidélité envers Dieu. Nous grandissons lorsqu'on confronte les problèmes dans nos vies, pas lorsqu'on les camouflage. Ça va juste reporter à demain des choses qui sont nécessaires pour moi aujourd'hui. Demandons pardon au Seigneur. Allons vers lui pour trouver sa paix et son aide pour vivre dans la victoire qu'il veut pour vous et moi. Prions ensemble. Seigneur, tu n'invites pas seulement les incroyants, ceux qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas encore donné leur vie à la repentance. Mais Seigneur, tu invites à la repentance ceux qui ne te connaissent pas et tu invites aussi ceux qui ont déjà fait repentance, encore une fois, de se repentir lorsqu'ils réalisent, après leur repentance à salut, qu'ils se sont égarés, qu'ils ont tranquillement cru des mensonges de l'ennemi, que le monde mettait comme pression, qui ont tranquillement compromis d'une petite chose et qui s'est devenu peut-être même gros. Et Seigneur, tu nous invites à la repentance. Parce que la repentance, c'est Seigneur, je te demande pardon, je reconnais que c'est mal et je veux couper avec le mal. Aide-moi, viens à mon secours, s'il vous plaît. C'est ça la repentance. C'est de voir que c'est mal et c'est de se tourner vers toi pour avoir de l'aide et vivre le pardon et vivre de la transformation pour pas y revenir. Puis dis, Seigneur, entre, fais ce changement-là. Je veux accueillir ta vérité. Je veux accueillir ta présence. Je veux accueillir, Seigneur, le briser les cycles de péché ou de mensonges qui m'amènent à retourner à du compromis, à m'attacher à des plaisirs de la chair, à m'attacher au matérialisme, à m'attacher à plaire aux hommes, à la prestance, à paraître devant les autres. Et Seigneur, finalement, tu ne passes pas en premier dans ma vie. Et ces choses-là deviennent mes idoles, deviennent mon Dieu. Et je veux te demander pardon. Je veux que tu reprennes la place qui t'appartient. Tu la mérites, Seigneur. Avec toute l'angoisse que tu as vécue pour porter mes péchés, avec une telle souffrance, un tel dévouement, un tel exemple de serviteur alors que tu es Dieu, tu mérites que tout ce que j'ai, Seigneur, t'appartienne parce que tout était perdu sans toi. Tout était perdu sans toi, Seigneur. Tu mérites mon allégeance. Et en demandant pardon, Seigneur, je suis en train de réitérer que je veux te la redonner entièrement et dire, Seigneur, prends ma vie, elle était perdue. Fais-en ce que tu veux, Seigneur. Et quand je suis un obstacle à faire ce que tu veux dans ma vie, Seigneur, montre-le-moi pour que je me repente encore. Pas pour être sauvé, je suis déjà, mais pour renouveler mon engagement, pour renouer dans ma relation avec toi, pour retrouver la paix puis la joie que j'ai en toi lorsque je vois que tu diriges ma vie et que je suis bien. Parce que c'est tellement facile pour moi de la perdre, de m'embourber dans tout ce qui m'entoure et c'est pas facile. Merci d'être patient avec moi, Seigneur. Je suis tellement reconnaissant que tu ne me juges pas au premier coup, à chaque faux pas, que tu me donnes des chances, tu me donnes des petits temps de délai, tu me donnes même des petits encouragements d'un bord puis de l'autre, des petits clins d'œil avant que tu arrives au bout puis que des fois tu es obligé de me donner une conséquence. Et même dans la conséquence, Seigneur, tu es bon. Tu es bon, même dans les conséquences que tu m'accordes. Parce que je le vois après ça, comment tu m'aides à me relever. Comment ça aurait pu être pire encore. Puis que tu m'épargnes certaines conséquences. Tu es tellement un papa. Oh Dieu, un papa attentionné. Un papa gentil, mais un papa juste qui dit la vérité. Et qui passe pas par-dessus son âme. Qui met pas l'amour à un tel point que tu fais du compromis pour pas me dire les vraies affaires. Non, tu m'aimes assez pour me dire même ce qui me déplaît. Ce qui va me déranger. Parce que tu m'aimes. Vraiment. Accorde-nous, Seigneur, de suivre cet exemple, Seigneur, que tu donnes aux églises d'Apocalypse. Et Seigneur, je te le demande, dans le nom de ton Fils Jésus.